Je vous invite à suivre présent l'émission Dialogue entre Congolais, présentée ce soir par Claude Kianza.
Bonsoir et heureux de vous savoir très nombreux. Vous êtes en effet des millions d'auditeurs en RDC dans le monde à suivre l'émission Dialogue entre Congolais de ce soir. Désaccord entre la GECAMINE et le creuseur artisanaux Katanga. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce désaccord et quel avenir pour le secteur minier en République démocratique du Congo? C'est notre thème de ce mardi 2 octobre 2007. En effet, jeudi dernier à Kolwezi, distance de 300 km de la ville de Lubumbashi au Katanga, creuseurs, artisanaux et forces de l'ordre se sont affrontés dans la carrière de Kapata. Carrière que la GECAMINE avait concédée aux creuseurs artisanaux sous respect de quelques conditions. Conditions d'exploitation qui ne satisfont plus les exploitants miniers artisanaux. Bilan des affrontements entre creuseurs et forces de l'ordre la semaine dernière, 2 blessés par balle parmi les creuseurs et 11 blessés graves du côté des policiers. 3 invités ont été conviés ce soir à en parler. Jean-Félix Mupande, directeur général du cadastre minier en RDC, qui est dans ce studio. Hubert Chiswaka de OCITA, une fondation américaine chargée de la bonne gouvernance qui intervient au téléphone depuis l'Afrique du Sud. Et Maître Barthélémy Mumbagama, ministre provincial du Katanga chargé des mines. Il intervient aussi au téléphone depuis Lubumbashi au Katanga. Fidèle à cette émission, certains auditeurs ont réagi, tel Patrick Mangai de Bounia dans la province orientale. Il veut savoir ce que le gouvernement attend pour renforcer le secteur minier. Quant à Alain Alembe d'Ouvira au Sud Kivu, il trouve qu'il faut assouplir les accords signés entre la GECAMINE et le creuseur minier artisanaux pour que ces derniers trouvent un pain quotidien, car en RDC estime-t-il, les jeunes n'ont pas d'emploi. Quant à Joseph Assouane de Mbandaka dans l'Équateur, il demande ce que prévoit la loi en cas de désaccord.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8999-222.
Suite au désaccord entre les creuseurs artisanaux et la GECAMINE, des affrontements ont éclaté la semaine dernière à Kolwezi, à environ 300 km au nord de Lubumbashi. Ces affrontements ont opposé dans la cité de Kapata creuseurs artisanaux et policiers. Selon des responsables interrogés sur place, un récent protocole d'accord signé entre les creuseurs et la GECAMINE oblige les creuseurs artisanaux de Kapata à vendre leurs produits uniquement à la GECAMINE, ce que refusent ces creuseurs, estimant les prix de la GECAMINE trop bas. Retour sur les faits avec notre consoeur Denise Maillot.
La manifestation a dégénéré lorsque l'un des creuseurs a été blessé par balle au moment où la police tentait de les disperser. Les creuseurs artisanaux ont alors pris la direction du centre-ville. Ils ont d'abord incendié la résidence du commandant de la garde industrielle de la GECAMINE et ensuite endommagé son bureau. Le bilan serait de 2 creuseurs blessés par balle, selon une ONG de droits de l'homme. Information confirmée par l'inspecteur de la police Kolwezi. Ce dernier précise qu'il y a également 11 blessés graves côté policier. D'autres sources affirment que l'un des creuseurs touchés serait décédé. Les creuseurs n'ont pas accepté de voir des barrières à tout le point de sortie de la carrière de Kapata, d'où leur révolte. Selon le commandant de la police Kolwezi, ces barrières visent à empêcher la sortie des minerais, car un récent protocole d'accord oblige les creuseurs de Kapata à vendre leurs produits à la GECAMINE, ce que refusent les creuseurs artisanaux, estimant les prix de ces sociétés d'État trop bas. Actuellement, la situation est redevenue calme, affirme le commandant de la police. Lubumbashi, Denise Maillot, Radio Okapi.
Du côté des creuseurs artisanaux, outre les prix bas que la GECAMINE leur propose, ces derniers se plaignent également de l'avance des concessions minières qui leur avaient été octroyées par le ministère national des mines. Et selon eux, ces concessions ont été vendues aux industriels par le même ministère. Ils se disent donc abandonnés par ceux-là qui devaient les protéger. On écoute Ngoy Mujinga, président de la coopérative minière Madini Kwa Kilimo. Il est au micro de notre confrère Jean Gandou.
Dans toute la province du Katanga, il n'y a que 6 zones qui étaient instituées comme zones d'exploitation minière artisanale. Un petit espace à Kolwezi, c'est la carrière de Tombolo, qui est sujet aujourd'hui à des problèmes, puisqu'on a dû redonner encore les industriels, ce qui fait que tous les territoires du district de Loraba, il n'y a pas un espace pour les exploitants artisanaux. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'il y a toujours énervement dans tout le district de Olomami. Il n'y a rien, aucun espace qu'on a laissé pour l'exploitation minière artisanale. Le Tanganyika, rien du tout, vous voyez, ce qui fait que c'est des problèmes qu'il y aura avec les industriels qui viennent. Et nous, donc, nous sommes laissés pour compte, on doit se retrouver sur la rue. nous avions constaté avec regret que nous sommes abandonnés à notre propre sort. La loi est claire. Il faut instituer les zones d'exploitation minière artisanale. Et tout l'espace minier a été attribué aux industriels. C'est scandaleux. Qu'est-ce qu'on a laissé aux pauvres Congolais? C'est une situation vraiment inquiétante. Tous les sites, ce sont les industriels qui viennent. Il y a des milliers et des milliers d'exploitants artisanaux qui sont sur différents sites en tant que préoccupants. Lorsque les industriels vont venir, ils sont obligés de quitter les lieux, de vider les lieux et de partir.
Monsieur Barthélémy Mumbagama, je rappelle que vous êtes ministre provincial du Katanga, chargé des mines. Je voudrais d'abord avoir votre réaction. D'un côté, les exploitants artisanaux estiment que les prix de la gécamine sont bas, et puis de l'autre, ils estiment aussi que les concessions minières qui leur avaient été octroyées par le ministère, par le gouvernement, donc ont été attribuées aux industriels. Quelle est votre réaction?
Concerne les prix des minerais produits par les exploitants artisanaux, le vrai problème provient de tous ces comptoirs d'achat de minerais qui n'ont pas de concession. Il y a dans la ville de Kolwezi plusieurs comptoirs qui sont institués, qui ont des dépôts, mais ces comptoirs ne s'approvisionnent qu'à partir des minerais extraits des concessions de la gécamine. Alors pour attirer les creuseurs à leur amener les minerais, ces comptoirs font de la surenchère. Ils mettent un prix exagéré et de ce fait, les creuseurs ou les négociants qui sont dans les terrains de la gécamine préfèrent leur amener les minerais plutôt que de les donner à la gécamine. Or, il est vrai que la gécamine, en acceptant la présence des creuseurs dans ses concessions, c'est pour obtenir que les minerais lui soient vendus. Ça, c'est le premier problème. En ce qui concerne les concessions reconnues à l'exploitation artisanale, il faut remercier d'abord la gécamine qui a pris l'initiative de reconnaître certaines zones minières comme des zones d'exploitation artisanale. Dans les concessions de la gécamine ici au Katanga, il y a 6 concessions qui avaient été reconnues aux creuseurs. Malheureusement, les sociétés industrielles minières se sont accaparées de ces concessions et donc condamnant ainsi les creuseurs à un état de nomade. Ils vont d'une concession à une autre, chassés d'un point, ils vont dans d'autres points parce que pour eux, l'exploitation artisanale est un gagne-pain.
Et alors, à votre niveau du gouvernement provincial, qu'est-ce que vous faites face à ce problème où des concessions sont octroyées aux mineurs, mais ils sont chassés par des sociétés industrielles, comme vous le dites?
Le gouvernement provincial, par la voix du gouverneur, a initié la procédure de récupération de toutes ces concessions minières qui étaient cédées par la gécamine et au bénéfice de l'exploitation artisanale. Là, c'est inévitable de pouvoir récupérer ça. En plus, le gouvernement provincial veut créer de nouvelles zones artisanales là où l'exploitation industrielle n'est pas possible. Et nous pensons que nous pouvons instituer des zones artisanales et à ce moment-là, nous pouvons y placer tous les creuseurs. Au-delà de la récupération des concessions, d'exploitation artisanale, de la création de nouvelles concessions, nous avons pensé qu'il faut que le travail du creuseur soit allégé. Et vous savez, quand vous visitez les carrières artisanales, vous allez constater que les creuseurs font des petits trous comme font les rats dans le sol, pour pouvoir atteindre 30 à 40 mètres et obtenir les minerais. Avec cette conséquence qu'en cas d'éboulement, ces creuseurs se retrouvent coincés et ils meurent. Nous avons pensé qu'il faut aider ces creuseurs, non seulement à les regrouper dans des zones bien déterminées, mais aussi à contracter avec certaines entreprises qui peuvent ne fût-ce que décaper la couche stérile, il faut décaper la couche stérile et faire la découverture pour leur permettre de s'installer directement sur la couche minéralisée. Ceci permet d'éclater d'abord les dangers d'éboulement, mais également de leur permettre d'accéder facilement à la couche minéralisée et d'augmenter la production. Et en plus, il faut un encadrement social, notamment qu'il faut des toilettes, il faut des puits d'eau, il faut des campements convenables sur ces lieux-là.
Voilà, nous allons Nous avons également dans ce studio M. Jean-Félix Moupandé, qui est directeur général du cadastre minier. Vous êtes chargé, du moins le cadastre minier, d'accorder des permis d'exploitation à ceux qui veulent exploiter les minerais. Et à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez accorder comme solution à ces exploitants artisanaux des minerais, puisque le code minier leur reconnaît le droit d'exploiter également des minerais congolais?
Depuis ma bord, il faut déplorer ces incidents qui sont survenus en Colésie. Et il faut aussi déplorer tous ces incidents qui sont liés aux problèmes posés par l'exploitation artisanale. Je veux tout simplement souligner ceci, que l'exploitation artisanale est reconnue par la loi. Et je crois que c'est l'une des innovations introduites par les nouveaux codes miniers. C'est l'une des voies par laquelle l'État congolais a préféré a souhaité arriver à créer une classe moyenne. Mais l'exploitation artisanale et sa création ont des conditions. Et ces conditions sont claires. Il faut que les facteurs techniques et économiques des gisements ne permettent pas l'exploitation industrielle ou semi-industrielle pour que cela soit déclaré comme une zone d'exploitation artisanale. Et je crois savoir que ce critère doit être suivi dans la procédure, la démarche qui a été écrite tout à l'heure par le ministre des Mines du Katanga, dont j'apprécie l'analyse sur la cause, évidemment, de tout le problème qu'il y a des mésententes entre les trésors artisanaux, que je qualifie...
Il y a la surenchère.
Oui, je qualifie trésors artisanaux parce qu'en fait, il y a un concept très clair qu'il faut bien placer sur la place publique, c'est qu'un trésor artisanal n'est pas nécessairement un exploitant artisanal. L'exploitant artisanal, c'est celui qui est reconnu par l'administration, qui dispose d'une carte et qui paye ses taxes et qui reçoit régulièrement une formation de la part d'une institution, d'un organisme approprié au niveau du ministère des Mines, qui est le CSK. Donc en fait, c'est tout ça qu'il faut essayer de mettre en place. La démarche décrite par le ministère des Mines concernant la création des zones artisanales doit répondre à ces critères technico-économiques que j'ai avancés. Et au même moment, il faudrait aussi veiller à ce que le trésor artisanal soit encadré, c'est-à-dire sur le plan technique, qu'il soit encadré sur le plan social, qu'il soit encadré sur le plan économique et financier.
Est-ce que vous, le cadastre minier, vous êtes là pour déterminer techniquement les exploitants artisanaux peuvent exploiter, excusez-moi la tautologie, certaines concessions?
Ce n'est pas le cadastre minier qui classifie les gisements qui sont exploitables de manière artisanale.
C'est qui, alors?
C'est la direction de géologie au niveau de l'administration des mines. Le rôle du cadastre minier, c'est de délimiter les zones d'exploitation artisanale lorsqu'elles sont définies conformément à la loi par les ministres des Mines, après avoir consulté la direction de géologie, ou lorsque, et c'est le cas qui est arrivé dans les 6 concessions dont on fait allusion, ou lorsque, par exemple, le ministre des Mines, qui a l'autorité qui décide dans ces cas, a essayé de fermer ces zones d'exploitation artisanale pour des raisons techniques bien connues, et dans ces cas, on notifie le cadastre minier, et le cadastre minier remet ça dans les domaines publics de l'État congolais. C'est ça le rôle du cadastre minier.
Nous avons également en ligne Hubert Chisroka de l'ONG, de la fondation OCISA, une fondation américaine chargée de la bonne gouvernance. Vous intervenez à partir de l'Afrique du Sud au téléphone. Comment faites-vous la lecture de tous ces événements? Il y a aussi les exploitants miniers artisanaux qui disent que le gouvernement central leur avait octroyé des concessions, mais c'est le même gouvernement qui a attribué ces concessions aux exploitants industriels miniers.
Merci beaucoup pour l'opportunité. Je salue d'abord les deux qui interviennent là-bas, les directeurs de cadastre minier et le ministre Mumbagama. Mais ma lecture est tout à fait différente par rapport au problème qui est arrivé. Ça, c'est une sonnette d'alarme dans les secteurs miniers qu'il faudra absolument atteindre. Parce que si vous suivez, les creuseurs qui ont parlé là-bas, ils ont soulevé les problèmes très importants. Ils exploitent et on leur exige un prix bas. Et puis, à la fin, on dit que bon, on nous arrache les concessions et nous sommes abandonnés. Et dans cette approche, dans cet incident qui est arrivé, il y a eu usage d'armes à feu pour dissuader les creuseurs. Le problème qui se pose actuellement dans la province du Katanga, à Kolwezi en particulier, n'est pas propre à la province du Katanga seulement. Cela arrive dans plusieurs zones où la majorité des Congolais sont réduits à l'exploitation artisanale. Ici, vous voyez, on exige à une large partie de la population, il y a des études qui font état de entre 700 et 800 000 Congolais qui sont dans l'exploitation artisanale, et ces gens n'y gagnent presque rien. Tout le monde parle des prix extrêmement bas, que ce soit pour le cuivre, le cobalt, le diamant ou l'or, le Congolais est exploité. Le ministre a parlé des comptoirs qui sont établis partout. Ce sont ces gens qui exploitent les contrats, les comptoirs plutôt, qui exploitent la population congolaise, parce qu'ils récupèrent le fruit du travail des Congolais à des prix très bas, même si on dit au-delà de la gétamine offre plus bas, et ces gens-là offrent mieux que la gétamine. Mais en dernier lieu, on trouve que les creuseurs artisanaux ne gagnent rien.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser la vapeur, c'est-à-dire permettre également aux creuseurs artisanaux de se retrouver, puisque ce sont des pères de famille qui vivent de ça?
Non, attention, ici mon approche c'est que peut-être il faudrait aborder le problème dans le sens d'assainir le secteur minier en général. Si vous voyez la raison qui pousse ces entreprises à acheter le produit des creuseurs artisanaux, les vraies raisons c'est qu'ils sont en train d'échapper à la charge de l'ouvrier. Parce que entretenir un ouvrier coûte très cher. L'ouvrier, il faut le vêtir, il faut le nourrir, il faut de la sécurité sociale, il faut payer les taxes à l'État. Tout ça, l'ouvrier coûte très cher. Alors, il préfère le raccourci, mais pas prendre les charges d'exploitation, en fait, et qui couvrent les frais et les charges de l'ouvrier, et mais récupérer tout simplement le produit de l'ouvrier. Le ministre a dit qu'il y a beaucoup de morts parce que ces creuseurs artisanaux font 30 à 40 mètres de profondeur et il y a beaucoup de morts. Et là, il n'y a personne qui est responsable de ces morts. Et là, je pense qu'il se pose un problème sérieux, plutôt d'assainissement du secteur minier. Et c'est un problème qui est général, ce n'est pas seulement dans la province du Katanga.
Maître Barthélémy Mumbagama, je rappelle que vous êtes ministre provincial du Katanga, chargé des mines, tel que vient de le dire Hubert Tissot. Qu'est-ce que je prends une, excusez-moi, je voudrais un peu me référer à ce qu'il vient de dire. Est-ce que la Gécamine, en concluant ce protocole d'accord avec les exploitants miniers artisanaux, ne profite pas un peu du travail de ces exploitants miniers artisanaux? C'est-à-dire que peut-être que si la Gécamine devrait elle-même exploiter ces concessions minières, ça nous coûterait peut-être un peu plus cher. Autant mieux coopérer avec ces exploitants miniers, peut-être pour essayer de faire baisser un peu les coûts d'exploitation.
Oui, il faut dire que le coût de la Gécamine à la main d'œuvre artisanale est regrettable, parce que comme vous le savez, le gisement de Kapata est un gisement qui est riche, mais la Gécamine n'a pas d'équipement, n'a pas d'engin, et elle dispose de deux grands fours électriques, Felco et Ivetka, qui doivent être alimentés en cuivre et en cobalt. Alors, la Gécamine n'a pas d'engin, elle disponibilise ses concessions pour que les creuseurs qui font une bonne production journalière vivent de la matière. Et c'est regrettable que la Gécamine soit amenée à recourir à la main-d'œuvre artisanale. Et nous souhaitons, dans la politique d'entourage, que rapidement la Gécamine puisse se doter de l'équipement nécessaire et qu'elle mette fin à ce recours à l'exploitation artisanale.
Voilà, il y a eu aussi une réunion entre la Gécamine, les creuseurs artisanaux et le gouverneur du Katanga, ce qui a abouti à la création d'une coopérative qui devait, comme nous l'avons dit, vendre sa production à la Gécamine. Est-ce que lors de la création de cette coopérative, Maître Mumbagama, les prix de vente des minerais avaient été fixés? De combien d'accord?
Il existe au Katanga, il existe là deux coopératives minières qui sont reconnues légalement, c'est-à-dire qui ont été agréées au niveau de la province et qui détiennent des arrêtés ministériels. Ce sont ces deux coopératives qui, en fait, encadrent aujourd'hui les creuseurs, et il y a un syndicat aussi des creuseurs qui est reconnu officiellement. De la question de la discussion, de la fixation du prix, en fait, le prix est fixé de commun accord avec les négociants, mais la GECAMIN essaye de faire intervenir certains autres critères pour pouvoir évidemment ne pas se mettre au même pied d'appoint avec les négociants privés qui en fait lui piquent les minéraux.
Je rappelle que nous avons tenté de faire participer un représentant de la GECAMIN à cette émission, mais il ne nous a pas été possible. Peut-être une réaction, M. Jean-Félix Moupandé. Je rappelle que vous êtes directeur général du cadastre minier.
Je rejoins le point de vue de M. Tshisoka sur la nécessité de procéder à l'assainissement du secteur minier. Et cet assainissement, je le comprends, devrait se faire dans le cadre légal, le seul cadre légal qui existe, et que le gouvernement devrait suivre pour essayer de mettre un peu plus d'ordre dans le secteur minier. Et j'insiste sur le fait que l'un des objectifs de ce code minier était de réduire les activités informelles pour le rendre beaucoup plus formel, afin que ce soit la capacité, augmenter la capacité contributive au niveau de l'État. Je voudrais tout de suite là-bas essayer de faire une petite observation par rapport à ce que le ministre Mumba a dit, qu'il existerait des coopératives minières au Katanga. Ces coopératives fonctionnent. En effet, le récent, ce sont des syndicats. Ce ne sont pas des coopératives au sens légal du terme de coopérative minière. Parce que les coopératives minières regroupent des exploitants artisanaux reconnus par la loi ou reconnus par l'administration et qui exercent leur activité sur une zone artisanale prédéfinie. Or, dans le cas d'espèce, c'est un groupement des négociants, des syndicalistes qui fonctionnent à la longue comme lobby. Et je veux encore essayer d'ajouter cet investissement sur le fait que l'existence de comptoirs, le comptoir auquel fait allusion le ministre Mumba, et ces comptoirs ont une existence légale, conformément à la loi, pour qu'ils soient en mesure de peser sur la fixation des prix sur le marché.
Donc, en quelque sorte, il y a beaucoup de désordres.
Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est absolument nécessaire de procéder à l'assainissement, et c'est ce que le ministère des Mines fait actuellement, et le ministre Mumba l'a dit. Le ministère des Mines fait un effort pour créer des zones artisanales dans les autres provinces. Ça, c'est pour rejoindre la préoccupation de M. Tshisoka. Et au niveau du Katanga, on est en train d'essayer de revoir une solution qu'on pourrait pour essayer de disperser les zones artisanales sur les différents territoires de la province.
Un désaccord entre la GECAMIN et les creuseurs artisanaux au Katanga. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce désaccord et quel avenir pour le secteur minier en République démocratique du Congo? C'est la deuxième partie de cette émission, mais avant cela, suivez d'abord.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
L'avenir du secteur minier en République démocratique du Congo passe aussi par l'attribution d'espaces miniers aux creuseurs artisanaux, ce qui créera un climat propice au travail des sociétés minières qui viennent s'installer au Katanga. Notamment, ces propos sont de Denis Kampaji, responsable du secteur du service de l'État chargé de l'encadrement des creuseurs artisanaux, CESCAM, section du Katanga. Ces propos ont été recueillis une fois de plus par notre confrère Jean Gandou.
Les dispositions du code minier disent qu'il doit y avoir des espaces réservés à l'exploitation artisanale. Et en 2003, le ministre de Mines à l'époque avait décrété 6 zones d'exploitation artisanale et qui étaient destinées aux creuseurs. Malheureusement, nous avons assisté de manière impuissante, et puis c'était clandestin, que le ministre Ingélé avait signé des arrêtés supprimant ces zones d'exploitation artisanale. Et les effets se sont sentis après son départ. Sans savoir que le ministre de Troisième République s'est retrouvé avec des arrêtés signés par son collègue. Le code minier est clair. L'exploitation artisanale, c'est un métier. Et aujourd'hui, les creuseurs que nous dénombrons chez nous doivent faire carrière et leur déterminer des endroits où ils doivent œuvrer pour le CESCAM, pour le ministre provincial, pour le gouverneur de province. C'est une solution inéluctable pour les sociétés minières industrielles qui viennent s'installer. Pour que les industriels puissent évoluer en toute sérénité, il faudrait que les creuseurs aient des espaces pour œuvrer.
Maître Barthélémy Mumbagama, votre réaction par rapport à la suggestion que fait M. Denis Kampachi?
Il est évident qu'aujourd'hui, les sociétés minières industrielles rencontrent une réelle difficulté face à la présence des trésors dans leur possession. Il y a quelque temps, nous avons eu à travailler durement pour essayer de convaincre les trésors à quitter la possession de SMK, qui est un partenariat jucanine environnement unique. Il y en a encore 4000, 5000 à Koumaziba dans leur concession. Il y a des trésors dans la concession de KOL. Il y a des trésors dans la concession de DGP. Il y a quelque temps dans la concession de Lufichi, tout près de Lumbashi, il y avait des trésors qui s'étaient installés. Aux alentours de Tenkefungurume Mining, il y avait des trésors. Et il y en a qui, parmi ces trésors, qui se permettent clandestinement d'aller dans les histoires des Shinko, que vous connaissez, Renfer. Et donc, la présence des trésors dans les zones d'exploitation industrielle constitue un vrai handicap. Les solutions qui avaient été préconisées jusque-là, c'était mobiliser la police, chasser ces trésors. Mais seulement, on ne résolvait pas les problèmes de l'état nomade des trésors. Ils émigraient d'une concession à une autre. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez la carte de l'étendue minière, vous allez vous rendre compte que tous les espaces miniers sont occupés, ont été attribués. Alors, dès lors que nous n'avons pas des espaces propres aux trésors, nous allons avoir des trésors dans toutes les concessions d'exploitation industrielle, ce qui est un handicap sérieux. Et donc, la solution d'avoir des zones propres aux trésors s'avère être une des voies pour encadrer les trésors. D'autre part, nous encourageons également que les sociétés qui exploitent industriellement les minerais puissent engager les trésors. Il s'avère qu'aujourd'hui, les trésors ont une connaissance plus ou moins appelée géologique. Ils arrivent quand même à se débrouiller pour creuser. Ils sont forts physiquement. Et donc, il s'agit d'une main d'œuvre qui peut être utilisée.
Maître Mumbagama, mais face à la promesse chinoise d'investir des milliards de dollars dans le secteur minier, est-ce que vous pensez que les secteurs de l'exploitation artisanale de minerais pourra subsister?
Si, parce qu'on sait que même les sociétés donnent des concessions, des grandes concessions destinées à l'exploitation industrielle. Vous savez que chaque société a plein la richesse. Détermine les gisements qui peuvent être exploités industriellement, mais il y a des gisements qui ne les intéressent pas économiquement parce que n'étant pas assez importants. Nous nous encourageons que ces sociétés puissent à ce moment-là déclarer l'existence de ce genre de gisements et puissent éventuellement les mettre à disposition de l'exploitation artisanale. Donc il est possible de concilier la mise à la disposition des Chinois des grandes concessions, mais aussi également d'avoir sur les mêmes concessions l'exploitation à la petite dimension, à la petite échelle, et pour les gisements qui sont économiquement faibles.
Puisque vous en parlez, est-ce que le gouvernement provincial pense peut-être déjà à des concessions qui sont réservées aux Chinois?
Oui, mais c'est un dossier qui est géré par le gouvernement central. Nous savons qu'il y a suffisamment de gisements qui ont été mis en garantie pour réaliser les programmes de développement central en termes d'infrastructures. Nous ne pouvons pas continuer à garder des minerais qui ne produisent ni les routes, ni l'eau, ni l'électricité, ni les emplois. Non. Les minerais ont été mis à la disposition du peuple congolais. Il s'agit là d'une propriété commune de tous les Congolais. Il faut s'en servir pour que cela puisse nous aider à résoudre les problèmes réels auxquels on est confrontés. C'est des problèmes de routes, c'est des problèmes de chemin de fer, c'est des problèmes de l'eau, de l'électricité. Nous devons servir de ce que Dieu nous a donné.
Merci beaucoup, Maître Mumbagama. Jean-Félix Mupande, je reviens à la même question. Quel avenir pour le secteur minier en RDC ou en d'autres termes, comment relancer ce secteur?
J'ai comme l'impression que le secteur est en train de se relancer progressivement depuis quelques années. Et là, il faut noter qu'il y a une information de base à partir de laquelle nous devons partir. Tout le monde sait, étonnamment mieux que notre pays, c'est un scandale géologique qui regorge de ressources minières très importantes. Mais personne, mais peut-être trop peu de gens savent exactement ce qu'il contient. Nous, nous avons besoin de conduire une politique de recherche minière. Jusqu'à présent, dans l'ancien temps, l'État congolais n'était pas en mesure de prendre en charge cette, cette obligation d'effectuer des recherches. C'est de cette manière que dans le nouveau code, on a libéralisé les choses de sorte que les activités de recherche soient entreprises par le secteur privé. Et au terme de leurs recherches, ils peuvent aboutir à la découverte des gisements dont parlait tout à l'heure le ministre Mumba, gisements d'importance industrielle ou des gisements d'importance non industrielle qui peuvent être attribués aux exploitations artisanales. Donc, en fait, on ne peut pas établir l'avenir de notre industrie minière sur l'exploitation artisanale. C'est l'exploitation industrielle qui pourrait rapporter suffisamment de recettes à notre pays. C'est l'exploitation industrielle qui va créer des infrastructures. Ce n'est pas l'exploitation artisanale, c'est une solution transitoire. J'appellerais même cela une activité transitionnelle. Il faudrait essayer de voir dans quelle mesure, progressivement, en résorbant le chômage, et progressivement, et la loi l'avait permis, en transformant l'évolution des exploitations artisanales en petites mines. C'est un concept nouveau qui a été créé par le gouvernement.
Donc, en quelque sorte, vous voulez dire que l'exploitation artisanale des minerais ne constitue pas vraiment un avenir ou
une relance pour lui. Je vous donne un exemple, le Kassai. On a libéralisé au Kassai oriental l'exploitation artisanale depuis 1981. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui est allé très loin avec cette exploitation. À Chicapa, c'était la même chose aussi.
Mais ce n'est pas aussi la faute du gouvernement, puisque le Kassai regorge de beaucoup de minerais. Un gisement, il n'est pratiquement pas construit.
Je vous ai dit qu'il faut mettre en place une politique d'encadrement. Et le SAISCAM a été créé justement pour ça. C'est pour accompagner les exploitants artisanaux dans leur évolution vers la transformation en exploitant des petites mines, en devenant des petits industriels. C'est comme cela qu'on va créer la classe moyenne. On ne va pas créer la classe moyenne avec des gens faméliques, des gens qui sont malades, des enfants 80% qui travaillent dans le trou. Et ça, ce n'est pas l'avenir de des mines au Congo, je vous assure.
Hubert Chisoka, je rappelle que vous êtes de CISA, une fondation américaine chargée de la bonne gouvernance. Et vous êtes, votre fondation est également très impliquée dans des commissions qui revisitent ou qui revisite les contrats miniers. Voilà, donc quel est, comment relancer le secteur minier en République démocratique du Congo?
Merci beaucoup pour la question. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Jean-Félix Mofande. Il a dit des choses qu'il faudra vraiment bien souligner. L'exploitation artisanale est quelque chose de provisoire. On ne doit pas développer des stratégies pour pérenniser ce qui est provisoire. Cette exploitation artisanale a vu le jour au moment de la déliquescence de l'État, où la gécamine était en perte de vitesse et personne ne pouvait plus soutenir la gécamine parce que l'État était en perdition. Et maintenant, nous avons les institutions légitimes qui sont mises en place. Monsieur Jean-Félix Mofande vient de le dire, il faut une politique de l'État. Il faut faire fonctionner de l'État. Il faut avoir une vision générale de l'État.
Et quelle vision?
La population ne doit pas être soumise à cette exploitation artisanale. C'est vraiment de l'esclavagisme moderne. Il faudrait qu'il y ait des grandes décisions qui permettent à ce que des entreprises qui investissent au Congo investissent réellement et payent les taxes qu'il faut à l'État pour que l'État organise l'emploi et utilise la population. Le ministre Mumbagam a dit qu'il faut engager les creuseurs artisanaux et les étirer conformément à la loi sur l'emploi. Mais ce que nous sommes en train de voir en RDC, c'est que on encourage à exploiter la population congolaise comme des esclaves. Monsieur Jean-Félix l'a dit, au Kassai, depuis 1981, on a dit libéralisons. Jusqu'à ces jours, il n'y a rien qu'on peut tirer de là. Par contre, il y a une très forte déperdition scolaire, ce qui fait qu'il y a des problèmes politiques parce que les grandes masses populaires quittent les provinces du Kassai et descendent vers le sud où il y avait à un moment une petite entreprise, une petite industrie qui utilisait cette masse populaire. Et maintenant, avec cette exploitation artisanale, il y a près de 700 à 800 000 personnes qui sont dans l'exploitation artisanale. La conséquence est quoi? Ces gens sont tellement exploités et ils les disent plus haut. Nous sommes abandonnés, on achète notre produit à un prix très bas, nous ne pouvons même pas vivre de ça. La conséquence est quoi? Ils fuient, ils vont en Zambie et descendent en Afrique du Sud.
Hubert Chissouaka, est-ce que vous pensez que la solution pour relancer le secteur minier en République démocratique du Congo consiste notamment à faire venir les investisseurs étrangers, tels que les Chinois qui ont promis des milliards dans ce secteur?
Il faudrait encore tirer attention, parce que ceux qui ont signé les contrats qu'on est en train de crier là-bas, ce sont les investisseurs étrangers. Le problème, ce n'est pas seulement de faire venir des investisseurs étrangers, mais il faudrait une politique claire de l'État congolais sur ce qu'elle veut faire de l'industrie minière. Il faudrait des décisions courageuses, des leaderships actuels pour que ceux qui investissent réellement et que l'État congolais y tire profit. Et pas les contrats dans lesquels l'État congolais ne tire rien, ce sont plutôt ceux qui se disent investisseurs qui viennent tout prendre. Là, on est non plus d'accord.
Est-ce que vous voulez dire que c'est le cas avec le contrat qu'ont promis le protocole d'accord signé avec les Chinois?
Non, je ne parle pas du protocole d'accord signé avec les Chinois, parce que là, je ne connais pas encore les contenus. Il y a des rapports avant ce protocole d'accord, parce que c'est très récent, ça date du mois passé, il y a des contrats antérieurs qui sont décriés. C'est là nous disons que le gouvernement puisse d'abord voir ça avant de signer d'autres accords. Si les accords avec les Chinois sont mieux que les contrats précédents, bon, tant mieux, que le gouvernement trouve des stratégies pour assainir le secteur minier, comme
d'ailleurs
le ministre du Katanga et Jean-Félix sont en train de le dire.
Merci beaucoup. Nous recevons dans ce studio Guy Roger Nyampala pour les questions et les points de vue de nos auditeurs. Bonsoir Guy Roger Nyampala.
Bonsoir à nos auditeurs. Rémi de Bukavu dans le Sud Kivu trouve que le secteur minier en RDC est en danger. Le gouvernement doit prendre des mesures responsables pour redynamiser ce secteur et y imposer son autorité. Pour Mouringi Nestor de Kisangani, dans la province orientale, cette situation reflète la confusion qui mine ce secteur. Il estime qu'il revient à l'État d'assainir ce milieu pour éviter une grave crise sociale. Honoré Koubaleka de Kikwit dans le Bandundu souhaite qu'il y ait une bonne collaboration entre la Gécamine et les creuseurs artisanaux. Enfin, Joseph de Chikapa, dans le Kasaï occidental, pense que les creuseurs doivent se conformer à la loi ou au cas contraire qu'ils abandonnent ou qu'ils puissent resigner le contrat avec les entreprises minières.
Maître Barthélémy Mumba-Gama, je rappelle que vous êtes ministre provincial du Katanga, chargé des mines, et vous intervenez au téléphone depuis Lubumbashi. Rémi de Bukavu, dans le sud Kivu, trouve que le secteur minier en République démocratique du Congo est en danger et que le gouvernement doit prendre des mesures responsables pour redynamiser ce secteur, y imposer son autorité perdue. Qu'est-ce que vous en pensez?
Effectivement, le secteur minier est un secteur qui doit constituer la base de la gouvernance de notre économie. Et il est un fait que dans ce secteur, on a attribué des concessions à un moment particulièrement difficile de notre pays, où le pays était un peu déchiré, n'avait pas sa totale souveraineté, et que dans cet octroi des concessions ou des espèces d'exploitation minière, il y a eu quelques faiblesses qu'il faut corriger. C'est la raison pour laquelle nous soutenons la commission de la révision des contrats. Nous pensons que les résultats de cette commission pourront permettre déjà à assainir l'exploitation industrielle. Et d'autre part, nous ne pouvons pas dire que l'exploitation à l'exemple soit un objectif à atteindre ou à maintenir ou à entretenir. On l'a dit, c'est une étape transitionnelle parce que tous ces jeunes gens, même des diplômés qui sont creuseurs, c'est par manque d'emploi qu'ils sont là-bas.
Est-ce que vous pensez, monsieur Mumba-Gama, est-ce que vous pensez, comme le dit Rémi de Bukavu, que l'autorité a perdu, le gouvernement a perdu son autorité sur ce secteur?
En tout cas, si au sud du Congo, l'autorité a perdu le contrôle sur les mines au Katanga, nous sommes en train d'affirmer l'autorité. Vous savez que le gouvernement de province a pris la mesure d'interdire l'exportation du brut. C'est une mesure qui a fait. Aujourd'hui, il y a des importations massives, effectivement, pour monter les industries minières. Bientôt, nous allons aussi mettre fin à l'exportation des concentrés. Donc, nous exigeons des sociétés minières qu'elles puissent produire des matières plus ou moins finies, les cathodes, ou les grillés de cuivre et de cobalt. Donc, au Catalan, nous n'avons pas l'intention de perdre notre autorité juvénile.
Merci. Monsieur Jean-Félix Mopandé, pour Mirugi, l'histoire de Kisangani dans la province orientale, cette situation reflète la confusion qui mine ce secteur. Il estime qu'il revient à l'État d'assainir ce milieu pour éviter une grave crise sociale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais je suis parfaitement d'accord avec leurs opinions de tous ces auditeurs concernant les dangers, la confusion, la nécessité de les dynamiser ou de restaurer l'autorité de l'État dans les secteurs miniers.
Parce que cette confusion ne vient pas également du cadastre minier qui donne des permis d'exploitation minière.
C'est une manière de voir la confusion de manière confuse. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quoi. La confusion dont est question, c'est de savoir, en fait, il y a des droits miniers qui sont accordés. Ces droits miniers doivent être, être réalisés sur le terrain. Lorsque ce n'est pas réalisé, il y a des dispositions dans la loi qui permet de le retirer.
Excusez-moi, par quel critère vous choisissez les compagnies, les personnes aussi du privé pour leur attribuer des exploitations, les permis d'exploitation?
Les critères sont objectifs et transparents. Ce sont des critères qui sont définis dans la loi sur base de l'objectivité et de la transparence, parce que là, il faut avoir la capacité financière reconnue, bien entendu, qui doit être démontrée. Il faut avoir aussi quelques passages dans le cas de permis de recherche. Dans le cas de permis d'exploitation, vous devez avoir les deux. La capacité financière et l'expertise technique pour procéder, pour mener à bien le projet d'exploitation que vous avez. Je voudrais revenir sur la nécessité d'assainir le secteur minier. Et ce sont ces actions qui ont déjà commencé avec la révisitation du contrat minier. Et en termes de droits miniers, nous parlons aussi de l'assainissement des répertoires des droits miniers en procédant au contrôle effectif des respects des obligations légales de toutes ces personnes là-bas. Une fois que les titulaires des droits ne respectent pas ces droits, eh bien, nous appliquons la loi et la loi s'applique à eux. Et je crois que, quelquefois, vous avez eu tout à fait tout à l'heure, il y a quelques jours, il y a eu des événements comme ça, les gens ont parlé de sécurité juridique. Eh bien, nous disons, il y a sécurité juridique lorsque vous restez dans le cadre de la loi et que c'est comme cette manière-là qu'il faut procéder à l'assainissement.
Merci beaucoup. Monsieur Bert Chisoka, il y a César de Bounia dans la province orientale qui veut savoir quelle part nos gouvernants réservent aux nationaux dans tous les contrats miniers signés. N'est-ce pas là une façon d'instaurer des conflits entre les sociétés d'exploitation et la population?
Je pense que les auditeurs, comme l'a dit Jean-Félix et le ministre, sont vraiment pertinents. Ils sont vraiment pertinents parce que ils posent des questions intelligentes. Et je remercie aussi pour une fois d'entendre les dirigeants de l'État qui reconnaissent qu'il y a eu des faiblesses, comme l'a dit le ministre du Katanga, et il y a eu des insuffisances qu'il faudra corriger. Mais dès qu'il y a une personne qui reconnaît des erreurs et qui se met dans la position de corriger, là, il faudra encourager.
Est-ce qu'il faut réserver une part aux nationaux dans tous les contrats miniers signés?
Je ne sais pas le dire parce que je ne connais pas tous les contenus des contrats, mais il est évident à l'heure actuelle que même les entreprises qui ont signé les contrats et le gouvernement qui a signé avec ces entreprises, on reconnaît ce qui est appelé d'une part les faiblesses, d'autre part on appelle les insuffisances, et tout cela s'est traduit par le fait que l'État congolais, la population congolaise ne retrouve pas ses intérêts là-dedans.
Merci beaucoup.
Et il faudrait qu'on puisse revenir sur ça.
Merci beaucoup. Puisque nous avons dans ce studio Jean-Félix Mopandé, est-ce que vous pouvez répondre à la question de César de Bounia, qu'on réserve une part aux nationaux dans les différents contrats?
Mais ça, c'est prévu, c'est tout à fait légal. Il est prévu que dans les permis d'exploitation, du moins les nouveaux permis d'exploitation qui sont issus des droits de recherche, l'État congolais puisse réserver 5% dans le capital de la société qui est créée lorsqu'on a découvert un gisement. Et je vous ai parlé tout à l'heure aussi d'un concept de l'exploitation en petite mine. L'exploitation en petite mine, il y a une obligation d'avoir 25% du capital qui doivent être détenus par les Congolais d'origine. Vous voyez très bien que le code minier...
Mais si les Congolais n'ont pas d'argent, d'autres personnes peuvent agir sous couvert des Congolais.
Je crois que c'est un problème global, cette fois-là, un problème d'honnêteté, de transparence au niveau global. S'il n'y a pas d'autres Congolais, je crois que les Congolais qui ont de l'argent, qui peuvent participer à un projet minier, il y en a beaucoup, ils peuvent... Et D'ailleurs, il y a une formule qui peut, excusez-moi, il y a une formule qui peut être utilisée. Il n'est pas nécessairement que vous, il n'est pas nécessaire que vous ayez 1000 dollars pour participer à une exploitation. Vous pouvez, lorsqu'on ouvre le capital d'une société, participer au moins des actions qui sont vendues à 200, 300.
Merci beaucoup. Joseph de Chicapa de l'Équateur occidental pense que les creuseurs doivent se conformer à la loi ou au contraire qu'ils abandonnent ou résignent le contrat. Guy Roger n'ayant pas la préparé pour vous cette émission, Nadine Poulala a réalisé et Pauline Mouinke où était à la mise en onde. Merci à nos invités. Au revoir et bonne soirée sur Radio Capi.